Savoir nombreux sur les antennes de Radio Capi pour ce nouveau numéro du magazine Étoile. Nous recevons un entrepreneur, il vient du Canada, plus précisément de la ville de Toronto, Monsieur Serge Mossala, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes à Kinshasa pour l'un de vos projets, je l'ai dit, vous êtes entrepreneur, vous avez monté une société qui s'appelle le Food Truck, vous travaillez dans l'alimentation. Dans la restauration,
ça.
Pas l'alimentation, c'est bien la restauration.
Exactement.
Alors dites-nous, tout est parti de votre voyage après 13 ans d'absence, 14 ans d'absence au Congo. Vous arrivez, quelles sont vos premières impressions?
14 ans après, beaucoup changé. Déjà qu'il y avait des gros travaux ici, donc on n'avait plus à se retrouver. Comme avant, mais le food truck, il est parti à un problème banal, un problème de restauration. Donc on avait faim, on voulait manger, mais on voulait manger pas étranger, donc pas exotique, pas tout ce qui est occidental, on voulait manger du local. Mais ce qui nous était offert, c'était de la nourriture de rue, hein, communément appelée maléwa. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces maléwas qui poussent aujourd'hui sous forme de restaurants. Il n'y avait pas ça. On a eu des petits problèmes, on va dire, de santé après. Et ce n'était pas plaisant. Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas avoir du maléwa, du local, mais bien fait. Mais toujours dans la rue, dans l'idée de tourisme un peu. Des gens qui viennent, ils veulent manger dans la rue. Et voilà, d'où est partie l'idée du food truck.
Est-ce que quand on connaît un peu Kinshasa, qui est une ville malheureusement réputée insalubre, est-ce que c'est possible de transposer justement ce modèle-là? Je peux comprendre l'idée à l'étranger, effectivement, on mange dans la rue, mais dans des conditions, on va dire, beaucoup plus hygiéniques. Est-ce que c'était possible de réellement réaliser ce projet ici à Kinshasa?
Bien sûr, le cadre il est idéal, hein. C'est juste qu'il n'est pas vraiment très exploité ou il est mal exploité, parce que Kinshasa c'est une ville touristique, hein, avec des sites très 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 beaux à voir, comme le bord de fleuve ou bien des parcs dans la ville, et ailleurs il y a les stades, on aime bien le sport, mais comment on fait pour manger au stade sans pouvoir sortir et aller à 5 km chercher quelque chose dans un sachet ramené? Donc nous on est dans le mobile, on est bien protégé de tout ce qui est poussière, vent, parce qu'on est enfermé et dans une cuisine. Et aussi le paquet, là on met de la nourriture, l'emballage, c'est des produits propres, nouveaux, qui sortent du sachet. Donc on met la nourriture dans les paquets. Et tout ce qui est environnemental, où est-ce qu'il faut se mettre, où est-ce qu'il faut s'asseoir, on a des chaises, on a un chapiteau, donc c'est un gros camion qui peut emmener tous ces matériels-là, hein. On a un chariot attaché même au camion, donc on peut bien installer nos clients, les servir sur place, de la nourriture chaude, propre, et après on débarrasse, donc on a des poubelles qui vont nous servir de mettre les déchets.
Alors Serge Mossala, vous vous définissez comme étant un entrepreneur en série, hein, puisque vous travaillez dans la restauration actuellement,
oui.
La construction, et vous avez d'autres projets en bien agroforesterie. Sûr. Vous nous expliquerez les détails de vos projets au cours de cette émission. Alors vous êtes né à Kwilungongo,
oui.
Nous sommes dans le Congo central, où vous y avez poursuivi vos études, vous avez fait l'horticulture, mais comment est-ce qu'après ça, on se retrouve en Afrique du Sud et on fait de la polytechnique?
C'est vrai, c'est assez étrange, mais après mes études, mon diplôme d'État, donc on s'est rendu à Johannesburg. Il fallait faire des études à Johannesburg, parce que c'est là qu'on avait des liens, de la famille, des amis. Et les universités agricoles étaient un peu plus loin. On va dire milieu inconnu, et puis l'Afrique du Sud est réputée pour être pas très amicale, on va dire, à l'époque. Donc on était obligé de rester à Johannesburg, de vivre là-bas et faire des études. Mais qu'est-ce qui se rapprochait plus de mon parcours? C'était l'ingénierat. Donc je suis rentré dans la faculté on appelait Industrial Engineering, c'est dans la Polytech. que j'ai commencé mes études en Afrique du Sud. Voilà un peu l'histoire.
Est-ce que l'horticulture, c'était cette influence, on va dire, dans le milieu dans lequel vous avez grandi, la ville sucrière?
Exactement. C'est tout autour de moi, c'est des ingénieurs, des amis de famille, des papas qui travaillaient tous dans l'exploitation de la canne à sucre et la fabrication du sucre. Donc, déjà, il y a eu cet amour pour le terroir, on va dire, hein, la campagne et tout ça. Et il fallait maintenant se ranger et continuer, en fait, dans la foulée, s'il faut dire.
Comment est-ce que vous vous voyez en tant qu'agriculteur au milieu des champs de canne à sucre? C'était quoi le rêve, enfant?
Le rêve était plutôt chercheur, améliorer les variétés, les espèces de plantes, augmenter les productions vivrières, maïs, canne à sucre. Bon, c'était un mélange, mais obtenir des variétés qui pouvaient bien refaire à notre climat, à notre pays, aux besoins du pays, et trouver les meilleures variétés qu'on puisse trouver pour améliorer toute cette production. C'était ça l'idée quand j'étais enfant, mais c'était pas plutôt dans l'exploitation agricole, mécanique, c'était plutôt la recherche.
Dans la recherche. Voilà. Alors, on est à l'étape où vous êtes effectivement en Afrique du Sud, où vous faites la polytechnique, et ensuite, vous vous rendez au Canada.
Oui.
Vous avez fait 3 ans en Afrique du Sud, hein. Ensuite, vous allez donc poursuivre vos études au Canada,
c'est
et là
ça.
Encore, vous vous orientez vers une autre filière.
Malheureusement, oui. Donc, c'est vrai qu'on est allé avec une idée de poursuivre, et voilà. Mais en arrivant sur place, il y a deux raisons. On va dire, le premier amour qui était l'agriculture, c'était un non-non. Parce que, on va dire, au départ, il fallait bien travailler, il fallait avoir un peu d'argent sur soi. J'essayais de faire travailler dans le domaine que je connaissais bien, qui était l'agriculture, mais on fait pendant 3-4 mois. Il fait beau et puis après il fait très froid, on ne peut plus travailler comme on le veut, qu'on a dû arrêter et aller en polytechnique. Il fallait continuer les études, avoir un master, mais les études coûtent tellement cher en Amérique du Nord qu'il fallait avoir assez d'argent. On n'est pas allé au Canada dire voilà, on va compter sur papa ou maman, et donc il fallait se faire une nouvelle vie, il fallait travailler, mettre de l'argent de côté et tout ça. Alors, pour moi, ce qui répondait mieux, j'avais une certaine petite maîtrise, on va dire, c'était l'informatique, donc je me suis lancé en réseau informatique, ils appelaient Networking Engineer, et c'est ce que j'ai fait.
Nous recevons dans ce magazine Étoile Serge Mossala, jeune entrepreneur. Donc, vous êtes au Canada et vous choisissez de faire l'informatique. Donc, vous travaillez dans le réseau informatique. Vous me dites que vous êtes employé depuis 13 ans dans une entreprise multinationale spécialisée en monétique. Quel est le travail que vous faites?
Quand j'ai commencé en 2006, j'ai été engagé comme on appelle analyste, c'est-à-dire analyste du programme qu'on avait de paiement, on appelle Payment Solution. Puis après, on passe des examens, plus on travaille, on passe des examens pour aller à un autre niveau. Donc, de analyste, je suis allé à Advanced Analyst et puis je suis allé à Senior Analyst. Et juste après l'école, quand j'ai eu mon diplôme, on avait plus un besoin logistique dans la compagnie, c'est-à-dire on voulait une représentation sur terrain. On a formé une équipe dans la grande province de Toronto, enfin la grande région de Toronto, on va dire, où je suis, en fait, dans ma partie, je suis la compagnie. On a plus de 15 000 marchands, donc il faut soutenir ces gens-là dans leurs opérations journalières. On va dire, il y a des petits problèmes d'argent qui passent pas, des dépôts qui sont pas faits, ou des machines qui repontent pas. Normalement, ils doivent se retourner vers le centre de la compagnie par téléphone ou par email. Et de là, on essaie de résoudre leurs problèmes, problèmes réseau, problèmes de communication ou carrément problèmes financiers. Il y a différents niveaux d'aide, mais quand tout est épuisé, que le client a toujours des problèmes, nous on est la dernière ligne. C'est-à-dire qu'on doit se rendre sur place et évaluer ce qui se passe et régler ce problème dans l'immédiation, on va dire. Donc, je travaille chez moi à la maison, dans un système, un programme bien fait. Et d'ailleurs, je veux profiter de dire que c'est ça qui m'a permis un peu de aussi évoluer un peu en entrepreneuriat, parce que j'ai quand même du temps à gérer. Je suis pas dans un bureau, je travaille, j'ai un horaire que j'établis tout seul. Voilà. Donc, on va dire dans mes heures libres, voilà, je travaille sur des petits dossiers ou un plan d'affaires perso.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser justement, Serge Mossala. Comment est-ce qu'on arrive à combiner justement sa vie d'employé et entre guillemets de chef d'entreprise aussi? Parce que vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat depuis bientôt 5 ans. Et le business entre guillemets que vous faites dans l'entrepreneuriat ne se trouve non pas au Canada, mais plutôt ici en RDC.
On va dire que c'est la passion qu'on a, hein. C'est l'amour de ce qu'on veut faire et de l'endroit où on le fait. Moi, j'ai toujours été un grand amoureux du Congo, c'est mon pays, j'adore ce pays, je me sens bien ici, je suis ici, je suis en parfaite santé, donc j'aime ce pays. Et quand on s'est lancé en entrepreneuriat comme ça, il y a beaucoup de sacrifices à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on coupe, qu'on ne fait plus. C'est sûr que les finances sont retournées vers quelque chose d'autre. On a peut-être moins de temps pour les amis ou les collègues, mais il y a toujours moyen de faire quand on veut. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment un gros sacrifice et puis une dédication, on va dire. On est dédié à faire quelque chose. Il y a la passion et on y va en France.
Alors pour vous, c'est à quel moment réellement que vous vous êtes dit bon voilà, ça fait autant d'années que je suis dans cette entreprise, il est temps que maintenant je développe ma propre entreprise. Ben, qu'est-ce qui a déclenché cela, si vous voulez?
On va dire que on apprend beaucoup. Après 13 ans d'être employé dans une multinationale, on apprend beaucoup. On apprend sur la discipline, sur l'organisation, sur le rapport humain dans la compagnie, sur tout ce gros réseau des compagnies affiliées et tout ça. Mais il y a aussi un problème de... Au début, on évolue très vite, mais après, ça se ralentit. Et quand ça se ralentit, on voit qu'on prend aussi de l'âge. Mais le système occidental, il travaille pour atteindre un but. Le but, c'est la retraite. Mais entre-temps, on vit dans une bulle. Donc, on fait du 9 à 5 jusqu'à la retraite pour enfin commencer à vivre. Moi, je ne veux pas vivre à 65 ans, je vais vivre maintenant. Mais où est-ce qu'on peut vivre maintenant? Avec tout l'espace que je veux, l'environnement que je veux, ben c'est au Congo. Il n'y a nulle part ailleurs, on peut vivre comme au Congo.
Mais alors, quel était cet élément déclencheur? Vous avez regardé autour de vous, peut-être les seniors de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, qui s'approchaient justement de cette retraite-là?
Non, mais c'est dans la rue, c'est partout. C'est, excusez-moi, ma femme, elle était là. C'est ça son environnement, elle a vécu que là. Donc, vous voyez, il y a un écart de raisonnement, on va dire. On a envie de se battre, on a envie de faire quelque chose, on a envie de devenir grand. Mais là-bas, on veut se ranger et aller doucement à sa mort. Et ça, c'est le Congolais ne pas comme ça. Il veut crier, il veut faire, il veut grandir. Donc moi, je veux le faire tout de suite. Et en venant au Congo, ben, on remarque ça, on remarque que les jeunes, ils ont un punch, ils veulent aller. Et ben, le secret pour moi, en fait, pour motiver ça, c'était rejoindre des groupes d'échange entre Congolais, mais vraiment des groupes d'échange tous les jours. Et je dis bonjour à un ami, Patrick Pacons, qui a réuni une crème comme ça sur des réseaux sociaux. Et on discute tous les jours, on discute et on se motive constamment. Et voilà, c'est ce qui m'a gardé un peu...
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup hein, d'entrepreneuriat. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression que les jeunes congolais se réveillent de plus en plus pour justement se lancer sur cette voie-là?
Oui, je pense que c'est ça. Mais l'entrepreneuriat au Congo, ça a toujours été là, en fait. Hein. Ça, c'est peut-être maintenant, c'est plus diffusé hein, dans les médias. Et il y a plus de jeunes qui portent cette casquette d'influenceur que je vois ou autre chose. Mais... Moi, le modèle dans l'entrepreneuriat, j'ai tout petit, je connaissais des grands commerçants du Bas-Congo, par exemple, qui évoluaient très bien. Monsieur Dokolo, par exemple, qui a une banque ici, ça a commencé il y a longtemps, mais maintenant, je pense que c'est plus vulgarisé.
Plus médiatisé.
Voilà, un peu plus, oui.
Alors, Serge Mossala, actuellement, vous êtes en train de faire votre graduat en construction et bâtiment. On l'a dit, c'est l'un des secteurs dans lequel vous travaillez aussi. Dans le but, me dites-vous, de développer un projet bien précis, c'est oui. De construire dans des zones urbaines assez compliquées, c'est ça?
Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est une entreprise qu'on va monter de construction, mais plus dans l'accompagnement en équipement de construction, on va dire. Tout ce qui est tracteur ou machines qui participent dans la construction. Nous, on sera là, on va accompagner techniquement les architectes, les ingénieurs. Dans les zones plus compliquées à accéder, oui, parce que quand on regarde les grands travaux, c'est les gros engins hein, qui prennent de l'espace, qui prennent de la grosse consommation, mais il n'y a pas que les grands travaux, il y a les rénovations dans les bas quartiers, quartiers un peu plus, on va dire, pas pauvres, mais voilà. Donc, on se bat, on ne peut pas rentrer des équipements parce que les gens, ils doivent casser à la main, ils doivent creuser à la main. Et un projet, juste faire une fondation, ça prend une semaine, deux semaines, il n'y a pas accès. Mais avec un engin approprié et vraiment enfin, dirigé dans cette façon-là, dans ce quartier, en deux heures, on peut faire une fondation et puis voilà, on passe à un autre niveau. Donc, on va aller dans cette optique-là, spécialisation, construction, mais dans des quartiers assez difficiles à pour pénétrer.
Difficile d'accès. Oui.
Voilà.
Alors, je vous propose de marquer une pause, Serge Mossala, pour nous revenons pour la suite de cet entretien.
Merci.
Troisième et dernière partie du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui Serge Mossala, entrepreneur. Vous avez lancé votre compagnie qui s'appelle le Food Truck, qui est spécialisée dans la restauration. Vous venez de nous le dire, vous travaillez dans la construction. Vous avez d'autres projets aussi en agroforesterie. Alors peut-être pour revenir un peu en arrière, nous sommes en 2015. Vous êtes le lauréat de la première édition du programme de la fondation Tony Elumelu. Racontez-nous. Donc, c'est par votre frère qui est à Londres que vous avez accès à cette information.
Exactement. Donc, je vis à Toronto. J'ai un frère qui vit à Londres. On discute tous les jours sur l'entrepreneuriat, la famille et tout ça. Et on essayait de faire des levées de fonds pour pouvoir voilà, venir et tout ça. Et il me balance un élément sur la fondation Elumelu. Un lien, il me dit, écoute, j'ai vu ça quelque part, essaie de lire, ça t'intéresse, bah, vas-y. Donc j'ai vu le lien et c'était bien, ça changeait de tout ce qu'on avait en Afrique. Alors on y est allé, on a présenté notre projet, on a été reçu, on a été accompagné dans la formation, on va dire, théorique, tout ce qu'il faut faire, plan d'affaires, tout ça. On a fini la formation, après on est allé à Lagos, et de là il y avait eu le forum en juillet, et après le forum, ben voilà, il y a eu ce qu'ils appellent un seed capital. C'est l'argent qu'on vous remet pour démarrer en fait une entreprise, pour aller, même si ça valait pas énormément grand chose par rapport au projet qu'on avait, mais c'était un encouragement. C'est la première fois que quelqu'un voyait ce que vous avez comme idée et qui vous accompagnez dans l'idée et vous dire voilà, on croit en vous, allez-y et rendez-nous fiers.
Mais qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant en allant vous inscrire sur le site de ce programme?
C'était l'échange qu'il y avait. Monsieur Elumelu réunissait 1000 entrepreneurs en 2015, 1000 entrepreneurs africains de différents pays en Afrique, tous les pays confondus, dans un même endroit, dans une même salle, pendant à peu près 3 jours. Il fallait échanger avec des gens peut-être qu'on n'aurait jamais rencontrés dans la vie, mais cette simplicité-là, tous réunis dans un dortoir d'une université à Lagos et discuter d'affaires et d'opportunités, c'était idéal. C'était un moment bien pour moi, voilà.
Et vous me dites qu'en vous inscrivant, vous avez présenté 2 projets.
Exactement.
Donc le projet actuel, hein, le
oui.
truck.
Le food truck.
Le
oui.
food truck.
Oui.
C'est le projet que vous avez présenté. Et puis un autre.
Oui.
Mais qui malheureusement n'avait pas été retenu. Disons que vous deviez faire le choix entre
choix.
L'un des
voilà.
deux projets.
Oui.
Mm-hmm.
Donc les 2 projets ont été retenus. Et ils m'ont envoyé une note spéciale pour dire. On aime les 2 projets, malheureusement, on peut prendre qu'un seul. Donc, il faudra que tu choisisses. Donc, j'ai dû aller avec le food truck parce que j'avais ça entre les mains déjà et j'avais déjà préparé des équipements qui étaient quelque part en fabrication. Ben, pour l'autre projet, c'était en fait la production de champignons commerciaux. Tout ce qui est bouton de Paris et tous ces autres champignons qu'on voit dans le supermarché bien beaux emballés. On peut le faire chez nous. C'est pas le matériel ou le climat qui manque. C'est vraiment pas ça. Après les études, on peut voir que les champignons, ça peut pousser dans un entrepôt, dans une chambre, partout. Alors, et puis l'amour de ce côté-là, c'était aussi par rapport à mon école où j'ai étudié, donc le jardin botanique de Kisantou. Je suis allé là-bas, je suis allé le voir. Bien sûr, je suis ancien. On a discuté avec la faculté, les professeurs et tout ça. On a dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment est-ce que je peux joindre mes forces à vous en tant qu'ancien et faire quelque chose? Donc, il y a plusieurs projets. Hein, de fait, nous, des dons, de matériel. J'ai dit, non, ben, c'est vraiment... Ça s'arrête hein, après un moment. C'est l'argent, il n'y a plus. On n'en peut rien. Mais moi, je veux vous donner quelque chose de plus de valeur, on va dire. Faisons une production de champignons à continu. Donc, dans toute l'année, on produit du champignon. C'est un produit, tout le 48-72 heures, on peut avoir un bouton de champignon et puis on met dans un paquet et on vend. Alors, il y a de l'espace ici, il y a le produit, il y a le champignon a besoin d'humidité, il y a ça, on a besoin, il y a la bagasse de Kuilungongo qu'on peut avoir à faible coût. Et voilà, on fait notre production. Et les étudiants, ce sont eux qui vont travailler dans la production, dans les élèves qui sont là. Ils vont apprendre, hein, ils vont voir, et ça va les aider. Ils vont gérer la coopérative, si vous voulez. Et voilà, donc c'était de là qu'est partie l'idée de la production champignons.
Ça, c'est un peu votre côté agri-preneur.
Voilà.
Alors, Serge Moussala, vous parliez tout à l'heure des rencontres intéressantes hein, que oui. vous avez eues là-bas lors du premier forum oui. de la Fondation Tony et Lumelu. Mais j'ai envie de vous demander, 4 ans après, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous gardez comme background de cette grande messe-là des jeunes entrepreneurs?
4 ans après, c'est... déjà, il y a une simple règle en entrepreneuriat, donc c'est le 80-20. Vous commencez une entreprise, un groupe d'entrepreneurs ensemble, donc 20% ils arriveront au bout et 80% ils vont disparaître, on ne va plus le voir. C'est un peu ce qui est arrivé. C'est un bon groupe de Congolais, mais il y a une petite anecdote que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'il y avait plus de 20 entrepreneurs d'origine congolaise. On était nombreux, on était vraiment très nombreux, mais 6 représentaient les Congos, le reste représentait des pays étrangers, donc des pays d'adoption, ce qu'on peut dire. Mais 5 ans après, je me retrouve ici à Kinshasa avec le food truck et des collègues entrepreneurs. Il y en a d'autres, on a gardé connaissance, on a contact, mais on n'en parle plus. On parle plus de ce qui les emmenait à Lagos. À part une qui s'est vraiment démarquée, avec qui je suis aussi assez proche. Mademoiselle Bénédicte Kivula, de la Fondation Kivula, qui continue dans sa lignée. Et, surprise tropicale, hein, c'est pas une publicité pour elle, mais moi ça m'impressionne quand même. Parce que le food truck, il a été food truck depuis 2014, il est food truck aujourd'hui, elle est surprise tropicale, elle est surprise tropicale. Donc c'est une battante, et je pense que j'ai de la chance, mais. Je peux autofinancer mes projets parce que je travaille, ça me fait un peu de sous. Mais à Kin, se battre sans emploi, on va dire professionnel, travailler pour une banque ou une télécom ou je sais pas où, et garder la même lignée, le même projet, il faut admirer, il faut féliciter ça. Voilà.
Alors, on va revenir justement à votre projet de restauration, le food truck. Vous dites que, en tout cas, il a été créé hein, en vue de pallier aux problèmes d'hygiène, mais aussi de logistique. C'est oui. aussi offrir une alimentation saine hein, oui. aux personnes qui viennent et aussi à moindre coût, voilà. Prétendez-vous.
Oui, hein.
Et l'autre projet que vous avez, c'est de travailler avec les instituts professionnels d'art et métier. Hein.
Exactement. Oui. Oui. Donc, il faut dire, ça c'est ce côté éducatif hein, que notre outil apporte. Si vous suivez bien ce qu'on a dit depuis le début, je fais toujours, je pose toujours un accent sur ce qu'est l'éducation parce que c'est très 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 important que l'éducation elle soit bonne et voilà. Donc, on essaie d'approcher des instituts qui forment de métiers, qui forment en hôtellerie, en serveur, restauration et tout ça. Parce que on essaie de voir, on s'est pas annoncé, mais on est allé sur place pour voir certains trucs. Les cuisines de pratique, par exemple, il y en a pratiquement pas. Il n'y a pas de réchaud, il n'y a pas de casserole, il n'y a pas d'outils qu'on utilise en cuisine. On va pas faire de la mauvaise publicité, mais c'est une réalité. Alors, nous, on veut approcher tous ces centres de formation, toutes ces institutions de formation en hôtellerie, en cuisine, en restauration, puisque Kinshasa, c'est une grosse métropole et on voit des tours pousser partout, des hôtels venir, s'installer. Et il y a un gros problème de la main-d'œuvre professionnelle. C'est, des fois, c'est vraiment. On ne sait pas quoi dire même à propos de ça. Donc, si c'est des gens qui savent ce qu'ils font, ils ont la maîtrise de leur métier, je pense que on arrivera quand même à avancer un peu. Et nous, on a un outil parfaitement dispo pour toutes ces institutions-là. Donc, ça le permettra aux étudiants, aux futurs chefs de restaurant, maîtres d'hôtel, d'avoir un appareil didactique où ils peuvent voir d'abord ce qu'ils enseignent, voir ce qu'ils apprennent et le faire en pratique et même les commercialiser, parce que vous venez faire vos tests pratiques chez nous, vous allez faire de la nourriture bien sûr, vous allez servir des gens, donc vous allez produire un peu d'argent pour vous-même. Et aussi, ça c'est avec les institutions, mais aussi, si je me rapproche un peu, on va dire, pas en politique vraiment, mais le gouvernement, ils insistent beaucoup sur l'éducation, sur les enfants des rues, les jeunes filles mères qui n'ont pas assez d'espoir d'avenir. Ben, la cuisine est là, c'est pas un métier, un sous-métier, un métier bête, c'est un gros métier, on nourrit des gens. Donc on peut pas récupérer, mais regrouper de jeunes filles mères comme ça, les intéresser dans la cuisine, les apprendre ces rudiments de cuisine et puis les placer. Mais si on est accompagné par exemple ces grosses institutions académiques, par ces fondations tout autour qui veulent aider les jeunes filles, les jeunes mères, ça sera bien pour nous. On est prêt à le faire, on est prêt à suivre et voilà, on est là.
Alors, Serge Mossala, l'année 2018, c'était une année pilote pour vous. Vous testiez un peu, justement, le food truck. Oui. Comment ça s'est passé? Comment faire pour pallier au problème d'eau et d'électricité? Parce qu'on sait qu'en cuisine, ce sont les deux éléments où on en a vraiment besoin. Quand on a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Si on veut, justement, faire de la cuisine, on va dire, de manière hygiénique, de manière propre.
Tout à fait. Donc, comme je disais, l'outil de travail qu'on a été pensé, repensé, re-repensé.
La fameuse cuisine ambulante.
Exactement. Mm-hmm. Donc, dans la cuisine, déjà, on a subdivisé la cuisine en deux parties. Donc, le gros de la cuisine, tout ce qui est chaudron, grille et tout ça, c'est sur gaz. Donc, on a un fournisseur de gaz, je ne vais pas citer son nom, mais avec qui on travaille. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, on peut faire tenir toute une journée, 2 jours, 3 jours, 1 mois même, en autonomie en gaz, et on continue à travailler. Mais aussi, quand il faudra utiliser des petits appareils, comme les micro-ondes, les mixeurs, tout ce qui est appareil de cuisine, là, on se remet à l'électricité. Donc, le fourgon est muni d'un connecteur, on va dire, d'une prise, qui se branche à toute source d'électricité dans un bâtiment ou un poteau où il y a l'électricité, on se branche et puis voilà, on est en autonomie. Mais cela ne nous empêche pas de travailler quand il n'y a pas de courant, on va dire. Mais vous avez dit hygiène, oui. Quand nous avons construit ce fourgon, on a installé 2 gros tanks, on va dire des réservoirs d'eau, capacité chacune d'à peu près 120 litres. Donc il y a un tank plein d'eau potable, qu'on utilise pour... Il y a des éviers à l'intérieur, donc on ouvre un robinet, c'est de l'eau froide qu'on veut, on prend de l'eau froide, c'est de l'eau chaude qu'on veut, il y a une machine qui chauffe de l'eau, c'est de l'eau chaude. Et un troisième évier, uniquement pour laver les mains. Donc on veut garder cet aspect propre, et nos employés savent qu'il faut laver les mains, après d'avoir touché quelque chose, sorti, aller dans les latrines et tout ça, donc on lave les mains, il y a du savon. Et pour préparer, il y a de l'eau potable qu'on recharge quand le réservoir est plein. Et l'autre réservoir reçoit tout ce qui est usé. L'eau usée reçoit qu'on va vidanger une fois la semaine, parce que c'est un gros réservoir, dans les caniveaux de la ville. Voilà.
Alors, on est en train de terminer quasiment cette émission, Serge Mossala, entrepreneur. On revient encore sur cette année 2018 qui était pour nous une année pilote, une année test. Vous dites avoir mené des études de marché avant de concrétiser votre projet. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez affirmer que le food truck est réellement rentable?
Voilà, donc 2018, une année pilote. On a essayé différents sites. Voir où ça donnait, les gens un peu intimidés par ça, alors, c'est trop cher, ça a l'air d'être cher, voilà, donc 2019, le temps de concrétiser un peu tout ça, on trouve des sites à nous où on peut vendre. Rentabilité, oui, c'est rentable, mais le marché quinois, on va dire, est assez compliqué, c'est-à-dire que on fait pas confiance directement, mais on doit s'habituer à vous voir, il y a un petit lien qui se crée et les gens ils se fidélisent un peu. De ce côté-là, oui. Dans les 3 semaines que je passais ici à couvrir certains événements, seulement le week-end, sans parler des ventes journalières et tout ça, je pense que ça promet énormément, énormément.
Est-ce qu'on peut dire réellement que la restauration est un secteur rentable, hein? C'est la question que je vais reposer d'une autre manière.
Définitivement, oh oui. Ouais. Je pense que c'est même l'un des secteurs qui est rentable dans la vie de tous les jours. Parce qu'on veut manger. On veut manger, que ce soit petit, gros ou exotique, mais on veut tous manger. On veut manger sain. Donc,
vous parlez du problème de confiance, hein, qu'on ne vous connaît pas.
Oui, c'est vrai.
Bon, et puis on n'a pas vraiment l'habitude de voir une fourgonnette stationnée quelque part, s'arrêter pour manger dans la rue, c'est pas évident.
Exactement.
Comment aussi, est-ce que peut-être il y a une politique commerciale ou de marketing que vous avez développée derrière pour attirer plus de gens ou pas?
Oui, c'est il faut le faire, mais. On va dire qu'on est aussi limité. On est limité par les moyens que nous avons parce que c'est toute cette opération, je l'ai financée par moi-même avec mes propres fonds. Donc il y a une équipe qui doit travailler, une équipe qui est là. C'est 6 employés avec des familles, donc c'est beaucoup de monde. Il faut les payer quand ça donne pas encore. Il faut s'occuper de la maintenance et tout ça. Donc on est assez limité, mais on essaie de faire ce qu'on peut avec les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp ou Facebook. Il y a une présence dans presque tous les réseaux sociaux. On essaie de mettre des photos, parler de nous, de ce que nous faisons. Déjà, je vais peut-être vous faire rire, mais j'ai un plus gros nombre des gens qui sont intéressés à ce que je fais ici au Canada qu'à Kinshasa. Mm-hmm. C'est parce qu'ils ont plus accès à ça plus souvent. Mais c'est une très 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 bonne idée et les gens ils adhèrent et je pense que jusqu'au mois de décembre, si je reviens par ici, je vous dirai exactement ce qu'on vient. Oui.
Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir et vous souhaitons bonne chance pour vos projets. Merci à Thérèse Concou qui a coordonné cette émission. Merci à Alain Goy qui en a assuré la mise en onde. Merci à Alain Goy qui en a assuré la mise en onde. Était au micro Nana Bolodjaï Alimoto. On se retrouve avec vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Étoile.